Salut à tous, bienvenue sur le petit plateau qui se met pour la deuxième fois en mode Tour de France. Et oui, il y a quelques heures finalement, on vous parlait de cette start list de dingue qu'on attend sur ce Tour de France 2024. Et on avait volontairement éludé finalement les grands favoris, les blocs véritables qu'on va voir ici au début de ce tour. Donc c'est la deuxième partie de notre préface de ce tour. Et pour en parler, eh bien, Alexis, Damien sont avec moi. Salut les copains.
Salut, salut.
Salut, salut tout le monde.
Alors, ces favoris, ils vont évidemment se faire la gagne sur des étapes clés. Alexis, tu es un petit peu notre monsieur parcours pour cette édition. Tu as analysé ça en profondeur et tu as repéré quelque chose de particulier sur ce parcours, en tout cas lié justement à tous ces noms favoris que l'on cite depuis des mois maintenant.
Oui, tout à fait, quelque chose d'assez intéressant. Je vais d'abord vous le résumer en deux, trois phrases. Alors, on a entre 6 et 8 étapes de sprinter. On en a parlé lors du premier épisode, hein, qu'on vous invite à réécouter si jamais vous voulez entendre parler d'autres choses que les favoris. On aura deux chronos, des chronos pour des rouleurs polyvalents, parce qu'on aura le premier qui sera plus plat que le second, mais pas totalement plat, et le second qui lui est complètement vallonné, voire très raide par moment. Donc il faudrait être un rouleur très polyvalent pour aller s'illustrer sur ces deux chronos. On a quatre étapes accidentées, dont les deux premières, je vous invite à aller voir le profil, elles pourront être très intéressantes, voire très importantes, on y reviendra. Des étapes pour puncheurs grimpeurs, il y a évidemment l'étape de gravel aussi qui pourrait être fatale pour certains favoris. Et enfin, on a sept étapes de montagne, dont probablement cinq courses de côte. Donc il y a des courses où tout va se jouer dans le dernier col. Et ensuite, les deux dernières étapes de montagne, l'étape 19 et l'étape 20, qui sont des étapes absolument atroces, avec des vrais enchaînements de cols, où on pourrait voir des offensives plus lointaines, voire vraiment des grandes stratégies d'équipe. Et justement, on y vient. Ce que tu disais, Romain, c'est qu'on voit vraiment un Tour de France un petit peu coupé en deux, voire en trois, avec les 9 premiers jours qui sont vraiment hyper importants et qui pourraient, selon moi, être totalement à l'avantage d'un Pogacar, et je vais inclure aussi un Roglic et un Remco, mais donc totalement à l'avantage de ces trois-là, particulièrement Pogacar, face à un Vingegaard qu'on peut envisager, qu'on peut imaginer arriver un petit peu voilà, hors forme ou pas encore à son pic de par sa préparation tronquée. Puis ensuite, on a une deuxième partie de Tour de France, tout un milieu où les rapports de force vont un petit peu s'équilibrer avec beaucoup de courses de côte, mais tout de même encore un petit avantage à Pogacar. Et ensuite, ces trois dernières étapes avec le dernier chrono et les deux dernières étapes de montagne qui, eux, sont absolument atroces, un triptyque infernal. Et pour le coup, quand on voit ça, on s'imagine totalement, en tout cas moi je m'imagine totalement le genre de triptyque des trois étapes où Vingegaard peut reprendre énormément de temps à Pogacar. Donc on a une espèce de chassé-croisé comme ça où on peut envisager un Vingegaard perdre énormément de temps au tout début, se maintenir ensuite et entamer une remontada sur la fin. Ceci serait en supposant que Vingegaard monterait en puissance au fur et à mesure du Tour de France, couplé au fait qu'un Pogacar, lui, pourrait arriver en bout de force au Tour de France parce qu'il a beaucoup roulé sur cette saison. Mais aussi, il faut aussi préciser qu'on peut très bien envisager Vingegaard avoir comme Pogacar l'année dernière, c'est-à-dire arriver plutôt en forme parce que là, il revient de stage, etc. Il roule beaucoup, il a beaucoup de caisse, et puis craquer à la fin de par sa préparation tronquée. Et si c'est le cas, ben là, forcément, le fameux triptyque de la fin ne lui serait d'aucune utilité. Et là, gros avantage pour Pogacar, voire pour Remco et Roglic et d'autres favoris.
Oui, ça évidemment, c'est à condition bien sûr que le Danois soit présent
Exactement.
à Florence. Et c'est vrai que son équipe a savamment entretenu l'inconnu, le doute. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, à l'heure où on enregistre cet épisode, on ne sait toujours pas si Vingegaard sera ou ne sera pas sur ce Tour de France. On a quand même eu, je pense, une série d'indications ces dernières heures, ces derniers jours, qui laissent à penser que il en sera, Damien.
On le
Oui,
suppose, hein.
je pense effectivement. D'abord, s'il n'en était pas, je pense que ce serait dit maintenant. Je vois pas bien l'intérêt de ne pas le dire. Et effectivement, on a vu certaines photos, certaines informations passées. Je pense qu'il sera au départ. Cette question-là, je ne sais même pas si on doit encore se la poser. Par contre, la question de son état de forme et d'une possible montée en puissance ou pas, comme Alexis l'a souligné, là, on peut clairement se la poser. Et ça va évidemment conditionner tout le reste. Moi, j'ai tendance à dire, montée de forme ou pas montée de condition, qu'il ne peut pas en gagner. Franchement, je pense vraiment qu'il ne peut pas gagner, mais c'est Vingegaard. Et ça vaut un argument énorme de dire que c'est Vingegaard.
Totalement.
Et deux, j'espère vraiment que les adversaires ne vont pas penser comme moi, qu'il ne peut pas gagner. Et j'espère qu'ils vont le mettre à mal sur la première partie, comme Alexis l'a précisé. Déjà, 100%, c'est un terrain de jeu qui va mieux aux adversaires de Vingegaard qu'à Vingegaard lui-même. S'il arrive un peu en deçà, ben là, il faut tout de suite le mettre dans les cordes parce que, il faut pas exclure, effectivement, qu'il puisse retrouver un bon niveau là sur la fin du tour. Et on sait que Vingegaard à son meilleur niveau, même sans la fatigue de Pogacar, en théorie, je pense que Vingegaard est meilleur sur le terrain des enchaînements en montagne. Donc voilà, petit conseil, je suis personne pour conseiller les autres coureurs, mais petit conseil aux adversaires, mettez-le hors jeu dès que vous pouvez.
C'est clair, les deux premières étapes pourraient être magnifiques à ce niveau-là. Hein. C'est ce que j'envisageais dans le premier épisode, sans vraiment le mentionner. Moi, si je suis à eux, je fais un train d'enfer dans la première étape pour, au cas où, Vingegaard n'est pas encore à 100%, le faire craquer. Pareil dans la deuxième étape sur des très hauts pourcentages. Et alors, d'autant plus sur la neuvième étape sur les graviers qui, a priori, ne sont pas censés avantager Vingegaard. Ces 9 premiers jours pourraient être cruciaux dans le tour de Jonas.
Oui, et bon, on aura évidemment l'occasion d'en reparler quand on évoquera les adversaires de Vingegaard, mais la clé, ce sera sans doute effectivement d'attaquer Vingegaard dès le début jusqu'à la fin. On sait que Vingegaard a écrasé le tour l'année passée en terminant avec plus de 7 minutes d'avance sur Pogacar. On oublie parfois que Pogacar perd 6 minutes sur une étape, hein, celle du col de la Loze, et que finalement, c'est un jour sans qu'il a eu, qui s'explique par une préparation tronquée. Cette fois-ci, voilà, comme on l'a dit, hein, les rôles sont inversés. Est-ce que Vingegaard sera à fond, en forme à fond dès le départ? Peut-être, mais est-ce qu'il pourra maintenir son niveau de forme tout le tour? C'est compliqué. Et c'est vrai que l'année passée, si on reprend toujours ce scénario, Pogacar avait sans arrêt attaqué pour grappiller au fur et à mesure. Ben, si on a effectivement un tour qui se passe dans l'autre sens, ce serait intéressant de voir. Après, effectivement, enfin, Damien, tu n'es pas encore, je pense, positionné vraiment. Alexis, tu n'es pas encore positionné vraiment sur la question. Damien, tu dis que tu ne crois pas, hein, je pense, en la victoire de Vingegaard. Moi, je vais aller plus loin. La saison de Jumbo, enfin de Visma Lease Bike est tellement pourrie que c'est presque impensable au final qu'ils aillent gagner cette édition. Alexis, peut-être en deux mots, est-ce que tu vois Jonas Vingegaard gagner ce tour? Et si jamais lui n'est pas en forme ou qu'il abdique rapidement, quels sont les plans B que tu vois dans cette équipe?
Alors, pour les plus fidèles de nos éditeurs, vous saurez que depuis le début de la saison, je ne crois pas en une victoire Visma sur le Tour de France, ni sur d'autres grands tours cette année. Non, plus sérieusement, Vingegaard, ben, on a envie de dire c'est impossible. Mais est-ce que Vingegaard nous a pas habitués à l'extraordinaire? Donc voilà, j'ai une réponse plein de nuances comme à chaque fois, mais j'y crois pas, mais d'un autre côté, je ne l'exclus pas. Parce que c'est Vingegaard. Donc voilà, il faut toujours être prudent avec lui. Maintenant, les plans B, ben, il y a évidemment Sepp Kuss qui est capable de gagner un grand tour, on l'a vu. Et Jorgensen qui tient encore plus que ce que je pensais en montagne. Cependant, je persiste et j'espère, enfin, pas que je l'aime pas, hein, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un d'hyper intéressant et de hyper. Enfin voilà, sur les réseaux et tout, il est hyper intéressant. Mais j'ose espérer que sur les étapes, des étapes comme l'étape 20 et 19, il va craquer, quoi. Enfin, le gars, il n'a quand même pas le profil d'un pur grimpeur, il fait 69 kilos. Donc voilà, je continue, je persiste à dire qu'il craquera à un moment, même si je le disais aussi pour Paris-Nice. Donc voilà, plan B très intéressant, plan C aussi, mais je pense qu'il y aura meilleur qu'eux.
Ouais, par contre, Jorgensen plombé normalement devant Sepp Kuss maintenant, alors qu'on disait tout l'inverse avant le
Ouais.
Dauphiné, mais moi avec ce qu'il a montré sur le Dauphiné, d'autant plus que on va revenir sur la présentation du parcours que tu as faite. Moi, Romain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, Jorgensen, la première partie, pareil, c'est parfait pour lui du coup, hein.
Bien
Ça, c'est
sûr.
un mec qui peut accrocher. Et alors du coup, bah, tu es bien placé jusqu'à une bonne partie hein, du Tour de France. Et là, par contre, Sepp Kuss, je le vois déjà peut-être plus loin.
Mais c'est vrai qu'ici, voilà, on évoque les plans B de la Visma, mais en parlant de plan B, vous évoquez malgré tout des places au classement général. Est-ce qu'on peut imaginer une équipe Visma Lease a Bike jouer les victoires d'étape plutôt que le général sur cette édition?
Oui, mais si, si, en fait, tout va. C'est la course qui va le décider. Si Vingegaard tient le coup dès le départ, non, ils ne vont pas jouer autre chose. Hein. Si c'est Jorgensen qui tient le coup, je suis plus mitigé. Je pense qu'il va avoir une bonne partie de l'équipe à son service, mais que si Wout Van Aert est au départ du tour, tu ne peux pas non plus dire à Wout, non, tu te mets au service de Jorgensen. Ça, je pense quand même que Wout, il doit pouvoir avoir sa carte. Et alors, fatalement, si Jorgensen ne répond pas présent, alors là, oui, c'est tout pour l'attaque, tout pour les étapes.
Ouais, j'ose espérer qu'un Laporte et un Van Aert, s'ils sont présents, auront des libertés au cas où c'est Jorgensen qui est le favori, même si ils auraient peut-être tous intérêt à faire deux, trois gestes pour lui en vue de la saison 2025 sur les Flandriennes. C'est un autre débat. Maintenant, voilà, imaginons que Vingegaard ne soit pas dans le coup. Jorgensen, qu'on soit bien clair, même si je n'y crois pas sur. Enfin. On ne devrait pas y croire sur les étapes 19 et 20. Je pense que. À la veille de l'étape 19, il peut être candidat à la victoire finale sur le parcours. Il peut être, ça dépend de Pogacar évidemment, mais vu le parcours jusqu'à la fin de l'étape 18, il peut être hyper bien placé. C'est juste que moi, à titre personnel, je ne le vois pas survivre aux étapes 19 et 20, quoi. Donc, je pense que même sans Vingegaard, Visma visera le général jusqu'à au moins la dernière étape.
Et un Wout Van Aert, tu l'as cité, dans le premier épisode qu'on a consacré au Tour de France, on a beaucoup évoqué les sprinteurs, on a parlé du maillot vert, on n'a pas évoqué Wout Van Aert. À l'heure actuelle, pareil que comme Vingegaard, on ne sait pas si Wout sera au départ, mais on le pressent quand même de plus en plus. Est-ce qu'un Wout Van Aert, c'est le coureur qu'on va malgré tout mettre au service d'un Vingegaard qui a toutes ses inconnues avec lui au départ, ou tu disais, Damien, tu vois pas un Van Aert travailler pour un Jorgensen, voire un Kuss. Est-ce qu'on va avoir un véritable bloc finalement au sein de la Visma?
Avant de te laisser répondre, Alexis, quand je dis je ne le vois pas travailler pour Jorgensen, que je précise ma pensée, si, si, je le vois de temps en temps donner un coup de main, mais
C'est
il
ça.
doit avoir cette liberté à lui aussi qu'il n'aura peut-être pas si c'est avec. Enfin, qu'il n'aura peut-être pas, peut-être un petit truc si Vingegaard est là, mais plus de liberté si c'est Jorgensen que si c'est Vingegaard, c'est ça que je veux dire. Maintenant, Wout, c'est dans son tempérament aussi de bosser pour ses leaders, ses équipiers, etc. Il rechigne pas à la tâche, donc bosser, je crois qu'il le fera. Je vais laisser répondre Alexis sur le bloc, mais juste sur Van Aert, tu évoquais maillot vert, etc. Je le vois plus peut-être alors faire des coups d'éclat, un ou l'autre coup d'éclat, mais pas un tour comme il nous a déjà sorti.
Non.
Il faut pas oublier non plus lui d'où il vient. Et je pense quand même qu'il y a les JO derrière.
C'est
Et
ça.
je pense qu'il va peut-être pas faire une Van der Poel, mais pas loin. C'est pas le tempérament de Van Aert de faire une Van der Poel, mais je pense pas qu'il doit tout donner non plus. Je crois qu'il va à la fois bosser, à la fois peut-être tenter un coup d'éclat, mais aussi penser à la préparation pour le grand objectif qui suit.
Ouais, c'est très dur à répondre en fait, parce que d'un autre côté, Van Aert 2021, les JO. Il fait un grand tour à fond et il est super fort à Tokyo. Donc, est-ce qu'il va faire comme Van der Poel? C'est clairement possible, mais c'est pas non plus assuré. J'ai envie de dire, ça dépend un petit peu, c'est quoi le but, quoi. Si c'est lui qui a demandé, si, je sais pas, si Visma disait non, non, moi, pas trop envie que tu viennes, mais c'est lui qui a insisté, alors ils vont dire oui, mais en contrepartie, tu dois venir aider ton leader. Si c'est plutôt Visma qui a dit s'il te plaît, il faut que tu viennes, on a besoin de toi et tout, là, il aura peut-être un petit poids de négociation en disant oui, alors il me faut mes libertés. Je sais pas si ça fonctionne comme ça dans une équipe, mais on peut l'envisager. Maintenant, voilà, un grand Van Aert aurait beaucoup de possibilités de victoire d'étape sur ce tour, énormément. Donc, je sais pas quoi penser, mais je pense que il aura ses libertés. C'est pas possible autrement. Il a un poids de négociation dans cette équipe. Il peut refuser si on lui laisse pas la possibilité de s'illustrer lui-même. Mais je pense que, comme tu dis, c'est dans son tempérament d'aider, donc il aidera. Il sera pas au niveau de 2022, mais je pense qu'on aura un Van Aert s'il est là, présent, que ce soit pour lui ou pour les autres, présent quasiment tous les jours, en fait.
Et par contre, du coup, on n'a pas répondu à ta question, Romain, donc moi, je vais te la poser.
Ouais.
Tu vois plus Visma comme des individualités alors que comme un bloc?
Bah, ce qui se passe, c'est que le fait que le grand leader ne soit pas à 100%, ne soit peut-être pas à 100%, va inévitablement donner des envies aux autres de s'illustrer. Et est-ce qu'un Kuss, avec sa victoire sur la Volta l'année passée, est-ce qu'un Jürgensen, avec sa victoire sur Paris-Nice cette année, vont accepter de se mettre à plat ventre total pour un leader dont on ne sait pas s'il est au départ, évidemment, dont on ne sait pas s'il tiendra sur la longueur, alors que eux, peut-être, sont en mesure de. Et donc, ce sera très intéressant de voir comment, finalement, dans la voiture de Visma, on va un peu gérer ça. Après, voilà, si, parce que nous, on n'est pas, évidemment, avec eux, on n'est pas en stage en altitude à la Sierra Nevada avec la Visma, mais si Wenger est à 100%, c'est le grand favori de ce tour pour vous?
Oui, en théorie, si vraiment on part sur du 100%, contre 100%, je le mets toujours un tout petit peu devant Pogacar, mais tu l'as rappelé, on reste sur le dernier Tour de France où Pogacar avait quand même une préparation tronquée. Alors certes, il avait perdu encore celui avant aussi, hein. C'est pour ça que je mets toujours Vingegaard un peu devant, mais on ne doit pas non plus quand même oublier que Pogacar n'était pas arrivé avec la préparation optimale l'année dernière.
Ouais, d'autant plus qu'on a vu sur le Giro Pogacar sortir quand même des watts qu'il a rarement fait sur 50 minutes. Donc, si on suppose tout le temps qu'il peut gagner en première partie de Tour de France, pour moi, les forces sont plus équilibrées que l'année dernière au vu du parcours.
Ouais. Alors justement, tu as évoqué en début d'épisode ici le parcours en expliquant que la première partie allait convenir à plusieurs coureurs et notamment à
C'est
Remco
clair.
Evenepoel qui partage avec évidemment Jonas Vingegaard une caractéristique pour ce tour, c'est une préparation tronquée. On l'a vu sur le critérium du Dauphiné, il n'est pas encore à niveau lui-même, hein, s'évaluer à 85-90% de son pic de forme. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Remco Evenepoel sur ce Tour de France? Et de manière générale, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce bloc ou pas de la Soudal Quick-Step face justement au bloc Visma et on a encore d'autres blocs dont on parlera après.
Remco, comme d'habitude, on ne sait pas. C'est un paradoxe, ce mec, en fait, parce que vu le niveau qu'il peut atteindre, qu'il a déjà atteint, on a envie de se dire, ce mec-là n'a pas de limite. Moi, j'avais pris pour habitude de dire, ben, en fait, je n'exclus rien avec Remco. Mais d'un autre côté, il a énormément de jours sans, ce qui pour moi, d'ailleurs, rajoute un petit peu, hein, embellit un petit peu l'image qu'il peut refléter. Et il y a Je ne dis pas ça de manière péjorative ni négative, mais il y a toujours quelque chose. Parce que Remco n'a jamais fait de grand tour sans chute. Jamais. Donc il y a toujours des chutes, que ce soit pendant ses objectifs ou avant, il y a toujours des maladies, il y a toujours des choses qui font que on ne sait jamais à quel point il peut être fort. Parce que même sur sa victoire à la Volta, il a été super fort, mais il a une petite craquante, mais il est tombé 2 jours avant. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si c'est dû à la chute ou pas. Même là, il va arriver sur le Tour de France. S'il a une craquante, on pourrait dire, ah ouais, mais il s'est fait la clavicule il y a 6 semaines. Donc Remco, c'est toujours, on ne sait pas. Donc, on sait qu'il peut être très très fort. Mais deux choses. Déjà, on ne sait pas si sur un Tour de France, face au tout meilleur et avec la pression, il peut être aussi fort qu'en 2022. Ça, on ne le sait pas. Et deuxième chose, on l'a revu à un très très haut niveau, mais est-ce qu'on l'a revu déjà depuis 2022, au niveau qu'il a eu en 2022, je suis pas sûr. Donc voilà, on sait pas quel niveau il aura. C'est toujours pareil.
Ouais. Moi, je vais me prononcer un tout petit peu plus, mais vraiment un tout petit peu, hein, vraiment du bout des lèvres. Je pense quand même que, même s'il y avait encore du temps pour progresser et gagner des pourcents, le gap de ce que j'ai vu sur le Dauphiné par rapport à certains semble un peu trop important. Donc voilà, ça c'est ce que je dis du bout des lèvres. Après, une fois qu'on a dit ça, on peut revenir sur le parcours, effectivement, et on peut se voir les choses de deux manières. On peut se dire, s'il n'est pas en condition optimale au départ, c'est dommage, parce qu'il aurait pu prendre peut-être du temps d'avance sur un terrain qui lui convenait bien. Mais on peut se dire aussi, le terrain lui va tellement bien que même s'il n'est pas à 100%, il va tenir là-dessus. Donc en fait, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et alors peut-être que Le gap, par contre, il peut peut-être, je reste quand même prudent, mais le combler pour le terrain là où il a le plus dur, c'est-à-dire en fin de tour. Et peut-être que là, il sera à son prime et que ça lui permettra de tenir. Après, Remco à son prime face si Vingegaard est à son prime, et en tout cas à Pogacar, moi je ne doute pas qu'il sera à son prime. Je ne pense pas que la fatigue du Giro va jouer. Sur ce terrain-là, ce sera quand même compliqué. Voilà, j'ai un peu peur quand même qu'il soit un peu trop en retard. Dans sa prépa, mais c'est pas basé sur grand-chose, hein. C'est basé sur le Dauphiné, et puis il y a un stage qui vient après, et puis il y a encore, donc voilà.
Sur l'impression que Pogacar et Vingegaard donnent quand ils sont à leur meilleur niveau, on se dit pas que Remco peut venir les battre. On est complètement d'accord. Mais un Remco à 100%, pour moi, peut battre tous les autres. Donc imaginons qu'un Pogacar et qu'un Vingegaard ne soient pas à 100%, ben, qui sait?
Ouais. Maintenant, j'ai peur que, pardon, je vais te donner la parole tout de suite, Romain. J'ai peur que justement, tu vois, le retard qu'il a, face qu'il est peut-être même derrière bah, d'autres noms qu'on va citer,
Ouais,
d'autres gros blocs
possible.
comme les Roglic, etc., quoi.
Ouais. Sans être à 100% sur le Dauphiné, il nous sort quand même un solide chrono sur 34 km. On sait que la première semaine, elle est exigeante, mais elle convient bien, tu l'as dit à Remco. Et peut-être que ce qui va lui moins bien lui convenir cette première semaine, c'est l'ascension du Galibier, qui peut-être pourrait être escamoté, on n'en sait rien. En tous les cas, les photos prises ces dernières heures au sommet montrent une route impraticable, hein. Il y a 1 mètre de neige dessus. Donc voilà, est-ce que avec tout ça, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir Remco Evenepoel en jaune à la première journée de repos, après donc ce premier chrono qui est, tu l'as dit, hein, pratiquement tout plat, 25 km, enfin un peu moins, 24 et demi, je pense, entre Nuit Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Est-ce que, et puis il y aura l'étape évidemment des chemins blancs 2 jours après la veille du repos. Est-ce que on peut imaginer Remco Evenepoel en jaune à la plus ou moins la mi-tour?
Après l'étape 7, on peut l'envisager. Après
Mais pas
l'étape
après le chemin blanc.
9, je vais pas mettre ma main à couper.
Ouais, moi j'aurais dit, on peut l'imaginer. J'aurais plutôt dit la petite nuance, on ne peut pas l'exclure. J'irais pas jusqu'à dire qu'on peut l'imaginer. On ne peut pas l'exclure, mais même moi je parle après le chrono. En fait, on en a parlé déjà. Ça dépend comment les mecs vont aborder le tour. Si Pogacar, il dit dès le départ, moi j'enfonce le clou et dès les premières étapes, j'y vais. Je sais que le terrain convient aussi bien à Remco, mais je reviens avec ce truc que je pense pas que Remco sera vraiment totalement prêt au début du tour. Alors là, parce qu'après, entendons-nous bien, Remco, il roule beaucoup mieux que Pogacar, mais Pogacar, chrono de grand tour, hein, tu lui
Ouais,
reprends pas
mais...
non plus.
c'est vrai, mais je crois que j'ai quand même l'impression qu'il y a un beau gap entre Remco et Pogacar en chrono, et tu sais quoi, mais j'ai envie de me mouiller parce que Remco est toujours fort sur ses objectifs. Et ouais, pour moi, il sera en jaune après le chrono. Parce que, imaginons qu'il soit à 100%. Alors, je vais être très honnête, j'adore Remco, vous le savez, je le vois pas. Enfin. Je suis une girouette parce que je change d'avis tout le temps, mais en fait, à l'heure actuelle, je ne vois pas battre Pogacar sur un grand tour, clairement, sur ce grand tour-là en tout cas. Mais par contre, un Remco à 100%, après les 7 premières étapes, il est devant Pogacar, pour moi. Je me lance.
Alors, un Remco 100%, je pense aussi. Là, moi, donc, j'y crois pas, on a bien compris, je pense, ma petit truc. Et je répète que, par contre, je l'exclus pas du tout parce que là, moi, je parle avec full attaque du AE, ce qui ne va peut-être pas arriver. Alors, à ce moment-là, par contre, je mets Remco de grandes chances d'être en jaune.
Ouais, je vous rejoins, je vais mouiller. Je pense que Remco peut être en jaune à Gevrey-Chambertin. Ce serait une autre paire de manches après trois, parce qu'on peut imaginer que sur ce type de terrain particulier, un Tadej Pogacar va essayer déjà de marquer les esprits.
C'est
Tadej
clair.
Pogacar, UAE, c'est évidemment un autre bloc, peut-être juste avant de passer sur UAE. Qu'est-ce que vous pensez du bloc ou pas bloc de chez Soudal? C'est ce qu'on a vu sur les dernières courses, c'est inquiétant. C'est dans l'ordre des choses que vous attendiez, ou finalement on a des craintes qui ne sont pas justifiées et on va avoir un beau bloc pour emmener Remco vers le maillot jaune.
En dehors de la qualité du bloc, j'ai envie de retenir un truc qu'Alexis a dit. Je me demande si c'était même pas sur le premier épisode. Oui, je crois. C'est que je ne sais pas s'il y a besoin non plus d'avoir 5 mecs hyper forts autour de Remco Evenepoel. comme on a pu le dire pour d'autres. Je pense que c'est pas eux qui vont devoir faire la course. C'est évidemment bien d'être bien épaulé, hein, mais voilà, je ne sais pas si ça sert. Alors, une fois qu'on a dit ça, on doit se poser la question d'avoir au moins, pour moi l'idéal, c'était d'avoir au moins un tout grand Van Wilder et un tout grand Landa.
Ouais,
Et
avec ça suffit
effectivement,
pour moi.
moi aussi. Maintenant, on peut se poser des questions sur leur état de forme. Landa, c'était pas mal sur le critérium, mais on voit qu'il en manque un petit peu encore aussi. Van Wilder, je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant. Je sais, voilà, à
Mais
voir.
et puis je trouve que enfin Landa avec l'expérience qu'on lui connaît, on sait qu'il s'est préparé pour le rendez-vous et moi j'ai pas de doute sur le fait que Landa va arriver en bonne forme, je vais pas dire à 100% comme s'il allait chercher un top 5, mais je pense qu'il sera vraiment en bonne forme et c'est vrai que Van Wilder m'inquiète un peu plus. C'est au-delà de Van Wilder, c'est l'ensemble du groupe. On sait que Remco, c'est un fouteux de base, c'est beaucoup dans la tête que ça joue, et il a sans doute besoin, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast, dans les précédents épisodes, hein, c'est le projet Remco chez l'équipe de Patrick Lefebvre. On sait qu'il a demandé à avoir Alaphilippe, Alaphilippe a refusé. Il y a quand même quelque chose qui se passe aussi à cet égard-là. Et donc peut-être que psychologiquement aussi, ça aurait été bien d'avoir un groupe très solide, en tout cas peut-être en apparence, pour prendre ce départ. Et là, il y a peut-être des inquiétudes qui vont venir nourrir encore en plus des inquiétudes à titre individuel. Et donc moi, c'est en cela, effectivement, où j'ai de sérieuses craintes.
Sinon, je voudrais faire un comparatif avec ce que j'ai dit à l'épisode 1. Je disais que Carapaz n'avait pas besoin de bloc mental, mais parce que lui est le meilleur grimpeur de son équipe. Remco, sur les très très longs cols, Landa sera primordial si on a un Landa à 100%, parce que Landa pourra l'accompagner quand il lâchera, parce qu'il va probablement, enfin, il pourrait perdre du temps sur Vingegaard et Pogacar sur les plus longs cols. Donc là, clairement. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que de Landa et de Van Wilder, on va dire, en très très haute montagne.
Une question pour vous. On oublie le contexte que c'est le projet Remco, qu'il y a toutes des décisions qui découlent de plein d'autres choses que le sportif. Donc je ne vous demande pas si ça va arriver, je vous demande juste votre avis de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que Landa, si Remco est décroché à un moment, on imagine que Landa n'a pas encore perdu de temps, il l'attend?
Ça dépend où. En fait, si c'est. Bon, le problème, c'est qu'il
Non,
n'y en a pas
évidemment, je ne
beaucoup.
te parle pas de l'avant-dernier jour, hein, mais...
Non, non.
Quoique...
Imaginons que Remco. Mais alors là, Remco doit être honnête, mais il est en perdition totale au pied du Galibier, qui a encore 20 cols d'ascension. Il ne l'attend pas. Maintenant, si c'est sur les 3 derniers kilomètres, il l'attend.
Très bon exemple que le Galibier, en fait, parce que ça vient tôt dans le tour, etc. Justement, oui, c'est très bonne situation.
Ouais, mon avis est différent. Je pense qu'il doit l'attendre. Il doit
Ok.
l'attendre. La première fois où Remco craquera, peu importe où c'est dans l'état, dans un col, il doit l'attendre parce que c'est le projet Remco et que Remco est là pour, même si il dit top 5, etc., pour gagner le tour. Et Landa est arrivé chez Soudal pour aider Remco à gagner le tour. Après, si à la fin de l'étape, en fonction du temps. Alors évidemment, on se rappelle tous de la craquante de Remco sur la Vuelta 2023 où il perd 25 minutes sous le Tourmalet et tout ce qu'il y avait avant. Ici, on est dans l'optique du Galibier qui reste malgré tout le dernier col de la journée. Hein. Si il craque dans Montgenièvre avant, faudrait peut-être remettre les choses en considération. Mais je crois que la première fois que Remco craquera ou craquerait, Landa doit l'attendre et on fait les comptes le soir à l'hôtel. Et là, je rejoins effectivement Damien. Remco devrait être honnête et dire si c'est une craquante que voilà, il n'a pas compris. On continue comme ça. Ou si finalement il le sent pas et voilà. Quoi qu'il arrive, j'ose espérer que c'est déjà acté chez Soudal en interne
Bien sûr.
de comment ça va se passer pour ne pas créer de frustration inutile sur.
Mais j'ai répondu en mettant de côté le projet Remco. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait,
Ouais.
sur le projet Remco, on ne peut qu'être d'accord. Tu peux
Sinon, je suis
pas,
d'accord, bien
tu
sûr.
construis autour de Remco, tu peux pas lui dire à moindre accord, ben voilà, maintenant c'est Landa qui y va alors qu'on l'avait recruté pour toi. Maintenant, j'imagine vraiment en abstraction totale de ça, quoi. Tu vois, juste sur un truc vraiment purement sportif. Tu vois ce qui s'est passé avec Almeida sur le Giro, le premier Giro
Oui.
où Remco reprend. On sait. Ne me faites pas croire que même chez Quick-Step, ils pensaient que Remco pouvait faire quelque chose sur ce Giro. On sait que ça va pas aller jusqu'au bout. Et on fait relever Almeida, qui était très content ce jour-là.
qui est toujours
Et
très
puis au
bon.
final, on s'en mord peut-être un peu les doigts parce que il fait un sacré Giro derrière Almeida. Alors Landa, de toute façon, on va pas aller gagner le tour, on est bien d'accord, hein, mais.
Non, moi je reste sur ma position. Et alors cette fois-ci, indépendamment effectivement du projet Remco, il y a une hiérarchie qui est fixée à la base. Il y a un leader, il y a un lieutenant. Sur une course de 3 semaines avec des écarts, je rappelle quand même que l'année passée, le dixième est à presque une demi-heure hein, de Vingegaard. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 4 coureurs dans les 10 minutes. Je pense que le troisième, Adam Yates, est juste en dessous des limites ou juste au-dessus des 10 minutes de retard. Donc, tu peux pas, dès que ton leader sur le premier col, je dis pas le premier col de la course, hein, sinon ce sera la première étape, mais si sur la première fois qu'il y a une difficulté pour ton leader, tu dis non, reste devant, bah, ça sert à quoi d'avoir un coéquipier alors? Et
C'est
donc,
clair, justement.
pour moi, indépendamment du projet Remco, je pense que pour le. En tout cas, quand tu viens avec une volonté de performer et de gagner, tu dois avoir une hiérarchie établie à la base. Si après, cette craquante, tu la revois, il n'y a aucun problème. Ou alors, il faut dire, en fonction des états de forme avant la course, ben, finalement, notre leader, ça va être Landa. Et que Evenepoel va se mettre au
Ah.
service d'eux. Mais je pense que, en tout cas, sur le dernier course qu'on a vu, Landa n'a pas montré plus de signes encourageants, entre guillemets,
Non, non, non,
qu'Evenepoel. Donc,
non.
pour
Non,
toutes
non,
ces raisons, moi, il n'y a rien à faire. Et je ne dis pas ça parce que je suis belge, sincèrement. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la série Netflix sur le Tour de France. On a vu l'exemple avec AG2R où O'Connor craque 17 fois avant qu'on se dise, bon, ben, finalement, le gars est une minute devant ou 3 minutes devant Ben O'Connor au classement général. Allez, on va en faire notre leader. Vous prenez l'exemple de Ineos où on ne sait pas très bien. Finalement, à la mi-tour, Carlos Rodriguez est 1 minute devant Pidcock. Bon, on va en faire notre leader. Je veux dire, pour moi, sur une course de 3 semaines, c'est fondamental d'avoir une hiérarchie et de ne pas au premier pépin qui arrive dire non, t'es plus notre leader. C'est foutre en l'air le gars, même s'il perd 3 minutes. Hein. 3 minutes sur une course de 3 semaines, c'est énorme. En tout cas, c'est énorme pour aller chercher. Enfin, c'est non, justement pas. C'est pas énorme dans l'optique d'aller chercher une place au classement général. Dans l'optique d'une victoire, ce serait différent, mais on n'est pas le cas. La question se posera plus. Pour le bloc suivant qu'on va aborder, qui sera UAE.
ouais,
Mais.
je suis d'accord avec toi sur la question de l'inversion de leader. Par contre, je suis pas à 100% raccord sur le fait qu'il faut à tout prix une hiérarchie claire. Alors là, je sors complètement du cadre de Soudal et de Remco, etc. Qu'il faut qu'à partir avec deux leaders sur un pied d'égalité et que la course décidera, je suis pas convaincu que ce soit si mauvais. Qu'il
Il
faille
y
à
en a
tout
beaucoup qui le
prix un
font, hein.
leader et un équipier juste en dessous, enfin un mec leader de substitution, si tu veux. Je suis pas si sûr que tu dois décider, toi t'es le leader et toi t'es le leader de substitution. Moi ça peut être les gars, vous faites votre course et après on verra ce qui se passe en fonction de qui fait quoi sur les. Bah, qui craque le premier, qui perd du temps, etc.
Ouais,
Mais voilà, je peux me tromper, hein.
je répète qu'on reste ici dans l'optique d'une équipe qui vise un podium, voire la
Oui,
victoire
bien
finale.
sûr.
On serait dans une équipe qui vise un top 5. Ça ne me dérange pas d'aller avec deux leaders, comme on a vu par exemple. Enfin, on ne l'aura pas ici parce qu'il y a un autre gars derrière eux, mais comme on pourrait imaginer Bora arriver avec Hindley et Vlasov, ben on pourrait imaginer de leur dire, ben les gars, voilà, vous jouez chacun votre carte. Il n'y en a pas un qui l'a travaillé pour l'autre et vice versa. Donc, mais non, je pense que pour une équipe qui vise un podium, il faut avoir un leader. Et de nouveau, c'est ça fait partie d'un objectif. De nouveau ici, indépendamment du plan Remco, du projet Remco, c'est parti d'un objectif de se dire, on vient ce tour pour aller chercher un podium avec un coureur et on met tout pour ça. Et si effectivement après deux, trois craquantes ou que là ça devient vraiment compliqué, on se rend compte que il y a quand même une dynamique qui s'inverse, alors il sera temps de changer. Mais voilà, une course, ça dure 3 semaines, et on parle en minutes, en quart d'heure, au bout de la deuxième semaine. Donc voilà, c'est pas grave si un leader perd 3 minutes, je pense, sur la première semaine.
Toute
Ce
façon, on
sera foutu pour
digresse.
la victoire.
Oui. Mais de toute façon, on digresse un petit peu parce que de toute façon, c'est le projet Remco et la question se pose même pas en vrai. Hein.
Non, clairement. Et puis moi, qu'on s'entende bien, après on peut passer à autre chose, mais quand j'envisageais que Landa ne la tombe pas au pied du galibier, c'est s'il fait une craquante, s'il sent qu'il fait une craquante comme sur la Vuelta et qu'il va perdre 10 minutes sur la seule ascension du galibier. Hein. S'il va perdre 2 minutes, 3 minutes, évidemment, Landa attend ça, on est d'accord là-dessus.
Ouais. Mais c'est vrai que, allez, un autre bloc qui va venir avec, au départ, c'est annoncé comme ça, en tous les cas, plusieurs leaders, c'est UAE. Dans les résultats récents, on a vu qu'ils sont tous, je ne vais pas dire au top, mais en tous les cas, ils sont tous au-dessus des autres, et pas qu'un peu, et il y a plusieurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe et surtout, quelles vont être les dynamiques justement internes, en sachant qu'il y a a priori le grandissime favori, mais qu'il y a dans cette équipe des mecs qui revendiquent clairement un co-leadership, voire leur carte blanche. Donc, qu'est-ce que UAE vous inspire sur ce tour? On va peut-être quand même, même si ceux qui nous écoutent le savent déjà, mais on va quand même peut-être juste rappeler quelle est cette startlist fantastique. Pogacar, Ayuso, Almeida, Yates, Sivakov, Soler, et on rajoute pour la forme Wellens et Hippolyte. C'est une équipe de dingue.
Ouais. Avant de lancer Damien dans l'arène, j'ai envie de dire co-leadership. Alors là, vraiment, je préfère en rigoler. Je pense qu'il y a un monde de différence entre Pogacar et les autres. Et quand on voit les chiffres, mais les chiffres qui ont été sortis par Adam Yates et Almeida sur le Tour de Suisse, ben on ne peut qu'avoir peur de ce que Pogacar va produire sur le Tour de France.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je rajouterais juste que ils ont tellement de super grands noms que pas du tout en co-leader, mais ils peuvent en désigner un qui bossera nettement moins que les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à Pogacar, de la fatigue, mais même simplement une chute ou quoi, ce serait bête d'avoir épuisé tous ces mecs-là, alors que n'arrivera peut-être pas, mais je ne dis pas que c'est les favoris, mais ce n'est pas impossible qu'ils soient 1, 2, 3 et 4 si vraiment ils faisaient chacun leur course. Donc à un moment donné, enfin, tu vois,
C'est indécent,
oui, c'est un truc de
vraiment.
fou. C'est un truc de fou. Donc voilà. Alors qui va faire quoi? S'ils en laissent un, qui? Moi, pour moi, c'est celui sur lequel on a le moins de certitude, puisqu'il est sorti du Dauphiné. Mais c'est Ayuso. En fait, c'est Ayuso. On parlait de projet avec Remco. Je ne dis pas qu'UAE a un projet Ayuso, mais c'est quand même un peu plus la pépite par rapport aux autres. Et je pense que si tu dis à Ayuso, t'es le premier à bosser, mon gars, ça va pas le faire. Donc voilà, moi je pense que les choses vont être définies. Je me projette sur un truc qui est peut-être totalement faux. Almeida, c'est lui qui doit tout faire péter. Ayuso, c'est celui qui est en réserve de la République. Et Yates, c'est le vrai bras droit de Pogacar qui met Pogacar sur orbite. C'est comme ça que je
Ouais,
vois
c'est
le
possible.
quatuor.
C'est d'ailleurs ce qui est annoncé. Hein. Yates lui-même a dit au lendemain de sa victoire ici sur le Tour de Suisse que son rôle sur le Tour de France, ce sera d'être la dernière rampe de lancement de la fusée Pogacar. Donc à travers ça, il confirme aussi que Pogacar, évidemment, sera le seul unique leader,
Et
ce qui
Ayuso,
semble
alors?
logique.
Franchement, c'est impossible à dire, hein. Ayuso, rôle plus libre, alors?
Ben moi,
Éventuellement.
quand je dis plus libre, en tout cas, enfin, quoique, allez savoir s'il peut attaquer ou pas. Moi, c'est vraiment juste, je reste en réserve, je tiens tant que je peux. Je fais pas l'effort, en fait.
Ouais, c'est ça,
Almeida fait
je reste dans
l'effort.
les roues, quoi.
Voilà,
Je
exactement.
suis pas forcément l'attaque de Pogacar, mais ouais, je reste en embuscade avec des autres qui essaient de suivre ou quoi.
C'est ce que
Mais
j'imagine.
moi, en théorie, j'aurais placé Almeida, enfin, vous savez, hein, j'aurais placé Almeida un petit peu en dessous des autres, mais avec ce qu'on a vu autour de Suisse, je peux plus.
Ouais,
Franchement, je peux plus,
clairement.
hein. Incroyable. Non, franchement, j'arrive même pas à imaginer une tactique parce que Almeida et Yates, moi j'ai tendance à aller voir Mambo qu'est-ce qu'ils sont, mais autour de Suisse, mais c'est extraordinaire quoi ce qu'ils ont fait. Donc, ouais, j'arrive même pas à envisager. J'ai même ouais, que penser d'Ayuso quand on voit ce qu'Almeida et Yates ont fait quoi. Franchement, c'est
Et
ouais,
ce qui
je
est
suis.
intéressant, c'est que malgré tout, malgré tous ces mecs-là qui sont super forts, moi je suis d'avis que non seulement ça ne se discute pas le leadership de Pogacar, et que souvent je dis quand Pogacar n'est pas là, sortez le pop-corn UAE quand il y a Almeida, Ayuso et tout ça sur une même course. Autant là, pour moi, ça va très bien se passer, ça va être un super bloc. En plus de ça, quoi, il ne va pas y avoir de guerre d'ego, enfin j'ai pas l'impression. Je pense que c'est une équipe où ils vont avoir un goal. Bien précis, c'est archi dominé cette course, c'est marcher sur le tour et Si accessoirement on peut répondre à la Visma qui avait fait un 2-3 sur la Vuelta, faisant un 2-3 sur le tour, ben, on s'en privera pas. Donc, je pense qu'ils vont vraiment avoir un objectif commun malgré le fait que ce soit tous des, alors je ne vais pas dire vainqueurs en puissance, faut peut-être pas exagérer, mais tous des candidats crédibles à une victoire sur un grand tour, quoi.
Oui, mais c'est vrai que bon, Pogacar reste effectivement en tant que de cette équipe par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à l'état de forme, en tout cas dans l'inconnu de la concurrence, ça reste évidemment le principal favori de ce Tour de France. Ça, je pense qu'on est d'accord. Comme UAE reste le principal favori pour le classement par équipe, c'est un classement dont on parle assez peu, mais qui, on sait, est intéressant pour les sponsors notamment. Comme Ayuso pourrait être un des favoris pour le classement du maillot blanc. On sait que Pogacar ne peut plus y prétendre cette année, hein, donc ça va changer. Un Remco, par contre, peut y prétendre. Un Jorgensen aussi, je pense, est encore dans les limites. Quand même, revenir un instant sur Almeida. Donc on sait que Yates veut faire le dernier étage de la fusée et manifestement sans contenter, surtout s'il peut gagner des courses comme le Tour de Suisse par ailleurs. Je reviens sur Almeida, tu l'as dit tantôt quand on a parlé de Remco Evenepoel, on a évoqué le Tour d'Italie 2021, si je ne m'abuse. C'est un coureur qui a une forte personnalité, qui a un fort ego. Est-ce qu'on peut sincèrement, vu justement les résultats sur le Tour de Suisse, demander à Almeida de se contenter de faire exploser tout dans l'avant-dernier col et de terminer toutes les étapes à 10 minutes pour être de nouveau frais le lendemain? Est-ce qu'on peut le demander et est-ce qu'il le fera?
Oui, je crois. En fait, déjà, c'est pas vraiment la même chose par rapport à l'époque Remco, où on le fait relever. Enfin, tu vois, il se dit, ben, j'ai plus de chance, à la limite, dans sa tête, c'est je vais finir devant Remco, quoi qu'il arrive, sur ce Giro. Donc, c'est déjà un peu plus difficile. Il est plus jeune, c'est une jeune promesse qui venait de faire un beau Giro l'année d'avant. On n'est plus dans la même chose. Il a signé chez UAE, il sait ce qu'il fait en signant dans une équipe
Exact.
pareille. Voilà. Et alors, justement, son Tour de Suisse me conforte dans l'idée. Peut-être il peut le faire. Alors il a failli quand même renverser la hiérarchie en bousculant Yates, mais au final il a fait le boulot. Alors encore une fois, je parle de ce que j'ai lu parce que j'ai pas vu les étapes, mais je pense qu'il a fait un boulot monumental, ce qui conduit beaucoup de monde à dire qu'il était certainement le plus fort de ce Tour de Suisse parce qu'il finit finalement pas loin de Yates alors qu'il a abattu beaucoup plus de travail. Alors si tu veux bien, alors ce n'est que entre guillemets le Tour de Suisse, mais si tu veux bien abattre un boulot comme ça pour Adam Yates, on voit pourquoi tu le ferais pas pour Pogacar.
Je me trompe peut-être, mais je pense que Pogacar était déjà là quand il a signé chez UAE, donc il sait ce qu'il attend. Je pense que les contrats sont clairs. En effet, je suis d'accord avec Romain, ça a l'air d'être une forte personnalité, et là, il va peut-être commencer à vouloir revendiquer des trucs. Mais pour moi, c'est clair, UAE doit lui dire, écoute, non, toi, ton rôle, ce sera 10 minutes avant l'attaque de Pogacar, tu fais un train d'enfer, et tu fais exploser tout le monde, et on verra peut-être ce qu'on voyait l'année passée avec Visma. Dès l'accélération d'Almeida, plus personne qui suit derrière, mis à part deux trois gars, quoi. Et Ayuso, pour être complet, Ayuso est tombé sur le critérium du Dauphiné, donc peut-être que ça peut avoir un petit impact aussi.
Pour moi, Romain, pour te répondre encore sur Almeida, ce qu'il peut revendiquer, alors maintenant tu te bats dans la hiérarchie pour le Giro et la Vuelta, par exemple. Tu vois, tu te bats avec des Ayuso, avec des Yates pour voir qui peut être leader sur une autre course. Mais tu peux rien revendiquer si tu fais une course avec Pogacar, quoi.
C'est ça.
Pogacar, justement, tu l'as dit tantôt hein, quand on évoquait Vingegaard, Pogacar arrivera à 100% et tu ne crois pas en la fatigue du Giro. Du coup, bah, je m'adresse à Alexis. Est-ce que tu penses que Tadej Pogacar peut être à 100% de la première à la dernière étape? Parce qu'on se rappelle quand même que sur les deux derniers Tours de France, à chaque fois, il y a une étape où il passe à travers. Il y a celle du Col de la Loze, on a déjà évoqué aussi l'année passée. Il y a celle du Granon l'année précédente, avec à chaque fois des raisons tout à fait différentes. Qu'est-ce qui se passe si Kevin, si Kevin, qu'est-ce qui se passe si Pogacar a une craquante cette année sur une étape?
J'ai envie de dire la même chose que ce que j'ai dit pour Vingegaard, c'est-à-dire qu'il nous a habitués à l'extraordinaire et que donc on ne peut pas exclure qu'il fasse un Tour de France aussi costaud que son Giro. Cependant, je pense que sur les très longs cols, c'est Wout Van Aert qui doit se rapprocher de ceux de Vingegaard. Mais le problème, c'est si sur la longueur, Vingegaard le force à être légèrement au-dessus de son seuil de résistance maximale, ben, on arrive à une craquante comme il y a eu il y a 2 ans et dans une moindre mesure l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a quand même des circonstances atténuantes. Et je ne serais pas étonné que dans ce même schéma, sur l'une des deux dernières étapes de montagne, à condition qu'on ait un Vingegaard à 100% et refasse craquer Pogacar. Maintenant, si on n'a pas un Vingegaard à 100%, je vois ni Roglic, ni Remco, ni personne d'autre faire craquer Pogacar.
Oui, parce que je vais te poser la question, en fait. Je vais te répondre et te poser la question, Romain. Quand je dis je me tracasse pas de la fatigue, je ne sais pas s'il va être à 100, vraiment 100% tout du long. Je me dis juste qu'avec ce qui est arrivé à Vingegaard, et que moi, je n'imagine pas avoir un Vingegaard fabuleux, même s'il perd quelques pourcents, c'est pas grave, il écrase quand même les autres. Je suis désolé pour les fans de Remco, hein, mais voilà. Et donc, je dis, je vais te poser la question parce que c'est mon avis, mais je veux peut-être t'entendre là-dessus aussi. Tu as l'air peut-être moins convaincu. Juste encore un mot sur ces craquantes. Il y a le défaut de préparation et il y a toujours l'aspect mental. Hein. Il craque après s'être pris une claque sur le chrono aussi l'année passée. Hein. Où il sait, enfin, il sait. Il essaye de se remobiliser, mais la claque, il l'a bien prise quand même. Hein.
Oui, tout le monde l'a bien prise. Hein, sur...
Oui, tout le monde l'a bien prise.
Oui, ben, moi, il n'y a rien à faire. Hein. Je pense que Tadej Pogacar est le grand favori du Tour de France. Et j'avais dit en début de saison aussi, hein, comme Alexis avait dit, il n'y aurait pas un seul grand tour pour le palmarès de la Visma cette année-ci. Moi, j'avais dit Pogacar, il va gagner, il va faire doubler le Giro Tour. Et puis, il va se dire, oh, allez, entrons dans l'histoire, allons faire le leadership sur la Vuelta. Du coup, ça va encore plus frustrer les co-leaders éventuels que seraient Almeida, Ayuso, Yates et compagnie. Mais bon, voilà, au-delà de la blague, non, il a la possibilité de faire un doublé. Tout porte à croire qu'il est capable de le faire, puisque, effectivement, Alexis, tu l'as mentionné, les chiffres, moi, je ne maîtrise pas ça, mais on a bien compris que sur ce Giro, il a sorti des chiffres hallucinants qu'il n'avait jamais sortis auparavant et qui laissent à penser qu'il peut être ben, le meilleur de ce Tour de France un peu partout. En tous les cas, si à moins d'un Vingegaard à 100%, on voit pas très bien qui va aller lui chercher à la régulière cette victoire, à moins qu'un Primoz Roglic qui va venir pour son peut-être son baroud d'honneur venir tenter quelque chose. Primoz Roglic, bah, qui n'arrive pas seul. Hein. On a évoqué le groupe Visma. Bon, si Vingegaard n'est pas à 100%, le groupe en prend un coup. UAE, c'est un groupe de dingue. Où est-ce que vous positionnez le groupe de Bora avec ben là, des gars comme Vlasov, évidemment, et Hindley. Mais on sait qu'on a aussi un Bob Jungels ou un Matteo Sobrero. Hein. On a vu que Sobrero est manifestement l'homme de main, entre guillemets, de Roglic ici, en tout cas depuis le début de la saison. Hein, on l'avait vu sur Paris-Nice et on l'a encore vu, je pense, ici sur le Critérium du Dauphiné. Qu'est-ce que vous attendez de Roglic donc et de ce collectif Bora Hansgrohe qui devrait d'ailleurs s'appeler hein, on rappelle sur ce Tour de France Red Bull Bora Hansgrohe.
Alexis, je vais te laisser répondre parce que en début de saison, il avait dit que c'était Roglic le principal
C'est
adversaire
vrai, c'est vrai.
pour le tour.
Je l'ai dit au début de saison, hein, je ne le dirai
Ouais.
pas forcément maintenant. dans le cadre de mon pari fou, on le rappelle. Bah écoute, je vais pas la comparer à UAE parce que UAE, comme on dit, c'est indécent. Je veux dire, dans un monde normal, ça n'existe pas, cette équipe-là. Dans un monde normal, Bora c'est une magnifique équipe. T'as Roglic en leader et t'as Hindley et Vlasov comme deux lieutenants de luxe. Franchement, non, c'est une magnifique équipe. Sobrero, Jungels, Haller, Nicodens et Danny Van Poppel pour les autres noms de la liste. Je sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai quand même envie d'y croire pour Roglic. Mais pareil, si on a les meilleurs Vingegaard et Pogacar, c'est toujours la même chose. Ils ont l'air tellement au-dessus des autres qu'on ne peut pas y croire, quoi. Et puis même Roglic, là, j'ai confiance dans l'entraînement, dans la préparation, mais il n'a pas l'air en mesure. De ce qu'on a vu, il n'a pas l'air dedans. Même si je pense qu'on aura un bon Primož Roglič qui sera prêt pour ce tour, il sera prêt, mais il sera prêt pour la troisième place.
Ah, carrément pour la troisième place, ok.
Non, je ne sais pas, je dis ça un peu pour provoquer, mais ouais, voilà. Je ne
Ouais.
l'imagine pas en jaune à Paris, à Nice.
Moi, j'ai deux petits trucs à dire et puis j'ai une question. Le petit truc d'abord à dire, c'est on a su taper sur Vlasov. Là, il a su faire l'équipier modèle quand même
Ouais,
pour
à
Roglic
fond.
sur le Dauphiné. Donc, franchement, là, chapeau pour ce qu'il a fait. C'était vraiment à la fois impressionnant par le niveau et à la fois de se mettre comme ça au service de son leader, c'était très bien. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que Roglic, j'y crois s'il a pris des petits trous avec. Et voilà. Et alors, ma question, qu'est-ce qu'on pense de la dernière étape du Dauphiné de Roglic? Ah, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et donc, ça me pose question parce que je trouvais tout était bien. Roglic, je trouvais bien, justement, pas encore au top, mais encore gagner des pourcents comme ses adversaires. Donc, moi, le voir comme ça au-dessus de ses adversaires, en plus. Il les distance pas plus que ça, mais bon, c'est Roglic, quoi. Hein. On ne doit pas s'attendre à
C'est
Roglic de
ça.
voir faire du Pogacar ou du Vingegaard de toute façon. Donc voilà. Mais alors après, la dernière étape du Dauphiné, je me dis, ouh, hop, j'ai perdu tous mes repères. Donc je sais pas du tout comment vous analysez cette petite craquante sur la dernière étape.
En
Oui,
fait, je vais me permettre
vas-y.
d'intervenir en premier parce que j'ai pas vu l'étape. Donc voilà, très sincèrement, j'ai pas d'avis sur la question. Mais effectivement, sur papier, dans le résultat, on peut se poser des questions, ou en tous les cas, se dire que comme on le pressent depuis le début de la saison, Roglic est sans doute passé au-delà de son prime et que c'est un coureur qui vient plus pour jouer la troisième place qu'autre chose.
La troisième aussi, ok.
Pourquoi toi tu te vas plus loin ou
Ben non, en fait, je vais y venir avec une prochaine équipe, mais quand vous dites troisième, c'est derrière les deux, derrière Pogacar et Vingegaard?
ouais
Quand j'ai.
dans un monde où ils sont là quoi
Ah
ils
oui, c'est
sont
dans un monde où ils sont là, moi aussi, c'est parce que là, je parle du Vingegaard dans la situation actuelle. Oui,
ouais.
fatalement. Alors, si on parle dans un monde où ils sont tous les deux là, oui, évidemment. Oui, alors je vous comprends.
Mais en fait, ça va aller à l'encontre de ce que j'ai dit il y a 30 secondes, mais en y repensant, je pense que cette dernière étape, il faut la mettre de côté. Parce que ça reste une course de préparation, c'est quand même pas la première fois que Roglic fait une craquante en fin de tour d'une semaine. Il avait encore du temps pour se préparer, il en a encore un tout petit peu. Donc voilà, je pense que il faut plus se focaliser sur ce qu'il a montré avant. Que ce qu'on a vu sur cette dernière étape. Et que donc voilà, c'est du Roglic.
Mais du coup, si vous avez fini avec la Bora, alors moi je disais pourquoi je le mettrais troisième et pourquoi cette dernière étape. En fait, il n'y en a que un finalement, de ce que j'ai vu sur le Dauphiné. Pour moi, il n'y en a que un qui suit un schéma qui me semble parfait, c'est Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez a été de mieux en mieux pendant le Dauphiné. C'est déjà celui que j'attendais le plus avant de voir le Dauphiné. Déjà pour le tour, c'est un mec que j'attendais pour un podium. Je pense qu'il va encore gagner des pourcents. Je crois que tout se passe sans problème pour l'instant pour lui. Et donc, dans cette équipe Ineos, où on peut, certains peuvent peut-être se poser la question du leadership, moi j'espère qu'on va avoir une vision claire, Romain, et une hiérarchie définie à l'avance pour un grand tour avec un Carlos Rodriguez qui sera leader de cette équipe. Et je le vois faire des grandes choses. Alors, des grandes choses, ben, ce n'est pas concurrencer Pogacar, hein. Encore une fois, c'est la bataille pour moi pour la deuxième place, puisque je ne vois pas Super Vingegaard. En tout cas, c'est pour être le meilleur des autres. Si Vingegaard est au top, ben, c'est pour être troisième. Et si Vingegaard n'est pas au top, c'est pour être deuxième. Mais je me demande si Carlos Rodriguez peut pas être le meilleur des autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée où j'écarte, je balaye totalement à Bernal, qui revient pas mal, par exemple. Je balaye totalement, mais ça, c'est autre chose, à Tom Pidcock qui aura peut-être des envies pour lui-même, mais ça, c'est un autre débat.
Bah oui, comme je disais un petit peu dans les petites capsules qu'on faisait avant le Dauphiné, début d'année, on parlait d'un match à 4 pour le Tour de France. Maintenant, s'il y en a bien un qui peut venir briser ce quatuor et venir s'insérer entre les deux premiers et les deux suivants, c'est Carlos Rodriguez, bien plus qu'Ayuso pour moi. J'y crois beaucoup plus pour Rodriguez que pour Ayuso. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis super curieux. En fait, je suis très excité par lui sur ce Tour de France. Je m'attends à beaucoup de choses. Et c'est clair et net. Alors, c'est peut-être moi qui fabule, mais j'ai l'impression que ça parle d'un leadership de Pidcock. Mais pour moi, non, ça doit être Rodriguez à 100%. Mais c'est peut-être moi qui ai vu une mauvaise info ou qui suis influencé par Netflix et de ce que j'ai pu entendre de l'année dernière. Mais non, Rodriguez, leader à 100%. Et même devant Bernal qui revient. Et je suis très content de voir leur tour. Mais voilà.
Je suis assez d'accord. C'est vrai que, allez, Carlos Rodriguez, c'est. On va pas se faire que des amis ici, mais c'est sans doute dans le cycle espagnol la pépite la plus prometteuse à l'état actuel des choses. En tous les cas, et là je rejoins un peu Damien, celle qui suit la trajectoire la plus. Comment je vais dire ça? pas la plus logique, mais en tous les cas, Ayuso a des hauts et des bas, il était très vite, très fort. Voilà, Carlos Rodriguez grandit vraiment bien petit à petit. Et donc, il ne serait pas illogique de voir effectivement l'Espagnol ici venir concurrencer les quatre favoris. C'est très certainement pour moi le favori, en tout cas pour. Enfin, c'est un favori pour le top 5. Plus qu'Ayuso, qu'Almeida, que Yates, parce que ces gars sont a
En
priori
plus.
coéquipiers de Pogacar. Enfin, bon, ça c'est aussi. Après, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on va travailler pour lui chez Ineos? On a vu, tu as parlé de Netflix. C'est une des choses, moi, qui m'a marqué dans la saison 2, c'est cette volonté de l'équipe Ineos d'absolument vouloir avoir ce leader. Je me contredis un petit peu, peut-être pour ceux qui ont suivi ce que je racontais, pour le cas Remco Evenepoel avec Mikel Landa, où j'estime que c'est quand même mieux de partir avec une hiérarchie, en tout cas définie à l'avance. Bah ici, oui, on a Rodriguez, on a Pidcock, que je ne vois en aucun cas battre Rodriguez sur son Tour de France, et on a un Egan Bernal qui est le dernier vainqueur de Tour de France chez Ineos, qui revient très très fort. Et puis on a quand même, on n'a pas encore cité, Geraint Thomas qui sera là, a priori pas pour jouer la gagne, mais qui en tous les cas devrait apporter quelque chose aussi dans cette équipe. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un Pidcock, un Thomas et un Bernal bosser pour Rodriguez? Je ne sais pas.
Pas Pitcock, je pense.
Ben, Pidcock, non, sans doute
Mais tu...
pas. Thomas, peut-être bien, c'est le
Oui.
genre de gars qui peut se mettre à plat ventre pour un jeune gars.
Ouais.
Un Bernal, est-ce qu'un Bernal sait ce. Je ne dis pas qu'il n'aura pas la volonté de le faire, mais
Je sais
est-ce qu'il
pas.
sait le faire? Je sais
En
pas,
gros, il y a
moi,
deux
j'ai
plus.
Et il y a deux
un. Il
plus.
y a deux plus, bien sûr, et Kwiatkowski aussi. Mais je vais aller au-delà. On a vu l'année passée que, à partir du moment où Ineos n'était pas en mesure de revendiquer la victoire, il fallait changer. Et il fallait essayer d'aller chercher des étapes. Ici, on a parlé dans le premier épisode consacré au Tour de France et qu'on a consacré à toutes les autres équipes, finalement, que les cinq grands blocs qu'on énumère ici aujourd'hui. On a évoqué une série d'équipes avec une startlist très intéressante pour aller briguer des étapes partout. Est-ce que c'est fou? Est-ce que ce serait fou, selon vous, de se dire, tiens, est-ce que finalement Ineos n'a pas la meilleure équipe possible pour aller briguer les étapes et ne pas jouer un classement général?
Oui, pour moi,
C'est
ce serait
fou.
fou. Pour moi, ce serait fou.
On peut dire en théorie, oui, mais en pratique, ils ne vont pas le faire parce que tu connais Ineos, ils vont même rouler quand ils ne vont pas rouler. Donc,
Oui, mais je suis d'accord sur le fait qu'ils vont rouler trop, ça, comme toujours. Après, parce que c'est Ineos, mais moi, je serai patron d'Ineos. Je vais pas pour les étapes. Je fais
Oui.
pas feu d'artifice, je vais pour le classement, parce que si je vous dis que, avec ce que je pense, il n'y a que Pogacar qui est au-dessus de Rodriguez, quand il n'y a qu'un homme qui est au-dessus de ton coureur, tu sais pas ce qui peut arriver à cet homme-là. Là, tu dois tout mettre en œuvre pour que Rodriguez il reste toujours dans la course, même si c'est à 5 minutes de Pogacar qui, pour une raison ou une autre, ne reprendrait pas le départ. Donc pour moi, tu ne peux pas te dire j'ai une Dream Team pour un feu d'artifice. Par contre, il y a un mec qui ne saura pas le faire, alors on ne doit pas accepter tous ses caprices, mais d'un autre côté, je trouve qu'il a le profil idéal, c'est Pidcock. Moi, je comprendrais qu'on mette toute l'équipe, sauf Pidcock, au service de Rodriguez, pas Pidcock pour qu'il joue au classement, Pidcock pour qu'il fasse un Tour de France dans l'esprit du fameux Tour Van Aert. Alors, il n'arrivera jamais à faire ce que Van Aert a fait, mais dans cet esprit-là, c'est-à-dire, joue ta carte, mon gars, de toute façon, c'est ce qui lui va le mieux, hein. Lui, ça en tête peut-être pour un classement, mais là, pour l'instant, clairement, va chercher des étapes. Tu peux aller en chercher. T'as un profil incroyable. Donc, fais ta course. Et Ineos, honnêtement, quand tu vois l'équipe, ils peuvent se permettre de dire à Pidcock, vas-y. Hein. Si t'as Bernal, et moi, je suis persuadé que Bernal voudra et saura le faire. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Je pense que Bernal va être d'une grande aide. De plus, c'est le gars dont on parle pas assez, parce que, franchement, et là.
Incroyable.
Contrairement au premier épisode où j'ai dit Steph Kras, c'est parce qu'on est belge qu'on en parle. De plus, c'est pas parce que je suis belge, il est monstrueux, franchement. Kwiatkowski peut clairement faire le boulot aussi. Thomas, dans l'esprit, oui. Après, je sais pas ce que ça va valoir en enchaînant, mais bref, pour moi, non, ils doivent pas faire un feu d'artifice étape. Ils doivent vraiment viser un minima un podium. C'est bien un podium quand même aussi, même si c'est une équipe qui a beaucoup
Mais
gagné
ça, un
des grands
podium,
tours,
ouais.
un podium c'est bien. Donc vise ton podium avec Carlos et éventuellement donne un peu de liberté à Pidcock, je sais pas.
Si les directeurs sportifs sont plus lucides que l'année dernière, ou en tout cas ce qu'on a voulu nous faire croire pour l'année dernière, et qu'ils sont bien axés sur le fait que Carlos Rodriguez est leur seul et unique leader, pour moi, je suis d'accord avec toi Damien, ils doivent aller avec une équipe qui l'entoure, parce que non seulement il est parmi les grands favoris du podium, mais en plus de ça, contrairement à ce que je disais pour IF l'épisode 1, ici ils ont une équipe qui lui permet... Enfin, qui permet d'accompagner Rodriguez relativement loin, même très loin en montagne. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, ils ont raison, je trouve, de mettre une équipe autour de lui. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis pour Pidcock.
Et est-ce que c'est pas pour boucler la boucle l'équipe, là peut-être la seule, sur papier en tout cas, qui peut rivaliser avec UAE pour le classement par équipe? On rappelle
Non.
quand même pour ceux qui suivent moins que le classement par équipe, c'est le temps des trois meilleurs de chaque équipe additionné étape par étape. Hein. Donc dans une configuration comme Visma où on a Vingegaard, Kuss et Jorgensen, et puis c'est un peu plus faible, en tout cas dans la haute montagne, que chez Bora, on a Roglic, Hindley, Vlasov, et puis c'est un petit peu plus faible dans la haute montagne. Je ne parle pas de l'équipe de Remco Evenepoel, ou à part Landa, il y a peut-être Van Wilder et encore. Ici, on a quand même 4, voire même 5 gars qui sont en mesure d'aller chercher un top 15-20 à chaque étape de haute montagne et de faire des écarts. Est-ce que Ineos, est-ce que ce serait envisageable de voir une équipe comme Ineos jouer le classement par équipe, tout simplement, par exemple?
Bon, après, il y a, évidemment, je vais te parler de liberté de Pidcock, mais pour moi, si une équipe peut battre UAE sur le classement par équipe, c'est une équipe qui doit pouvoir prendre des échappées et tout ça. C'est pas une équipe qui ressemble à UAE. Une équipe qui ressemble à UAE, si Ineos fait ça et si Bora fait ça, ils ont zéro chance, malgré des très bons coureurs. Bon, sauf, évidemment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein, si tu as les trois mecs de chez UAE qui ont Covid et qui partent. Mais je veux dire, sans aléas, si ça échappe, pour moi, ça peut être que des mecs qui prennent des équipes qui placent plein de mecs en échappée. Ça me semble totalement improbable, hein, mais je vois que ça, en fait.
Ils ont l'équipe pour viser un classement par équipe, mais pas passer à UAE, en fait. C'est juste ça.
C'est ça, voilà.
UAE est juste trop fort.
Ok, peut-être une toute dernière question pour terminer et faire la boucle avec le premier épisode aussi qu'on a proposé à nos auditeurs. Dans celui-ci, dans ce second, on vient d'évoquer les cinq grands blocs et on a vu que dans, leur nom l'indique, hein, dans les blocs, il y a à chaque fois deux, trois, quatre coureurs, parfois même cinq, qui intrinsèquement peuvent aller chercher, revendiquer en tout cas un top 10, top 15, top 20. Dans le premier épisode, on a évoqué les Carapaz, les Godu, les Buitrago, tous ces coureurs qui peuvent aller chercher eux aussi légitimement une place dans le top 10. Est-ce qu'on n'a pas la start list la plus dense, la plus belle depuis 5, 10, 15, 20, depuis très longtemps? Au départ d'un grand tour, je parle.
Le problème, c'est qu'il y a toujours des chutes, des creux, enfin, voilà, des choses qui se passent. Mais imaginons que tous ces gars-là arrivent à finir et voilà, et 100 jours sans, on aura le top 10 le plus relevé depuis très très longtemps.
D'un Tour de France, je dirais que oui.
D'un
Est-ce qu'on
Tour
n'a
de
pas eu,
France.
il y a une Vuelta Mais alors, j'ai chaque fois la réserve, je l'avais déjà dit à l'époque, que un nom ne vaut pas un nom, quoi. Parce que quand on fait pas un objectif, enfin, je veux dire, les mecs qui viennent sur le Tour ou les mecs qui viennent en rattrapage sur la Vuelta, même si c'est les mêmes coureurs, la qualité de la start list n'est pourtant pas la même. Donc, alors à ce moment-là, oui, je te rejoins, je pense que l'on a la plus belle start list depuis très longtemps.
Ok. En tout début de premier épisode, tu nous demandais quelle était la hype qu'on avait pour ce Tour de France. Je sais pas vous, moi, le fait d'en discuter ici dans deux épisodes consacrés environ 2 heures hein, finalement à ce tour, elle a encore monté d'un cran. On
D'accord.
approche en tous les cas, le Tour de France, c'est bientôt, c'est déjà ce 29 juin, grand départ de Toscane et de Florence. On a appris d'ailleurs il y a quelques jours que le grand départ l'année prochaine, non, de 2026, ce serait Barcelone. Donc on va encore continuer à faire les visites à l'étranger. En tous les cas, ici, voilà, un tour qu'on attend évidemment avec grande impatience, un tour qui s'annonce explosif, qui s'annonce mythique. En tous les cas, merci à tous de nous avoir écoutés aussi longuement. Hein. On est reparti sur des épisodes un peu plus longs ici, mais Tour de France oblige évidemment la plus belle course, alors qu'en plus c'est la plus belle start list depuis très longtemps. On ne pouvait pas passer à côté. On vous rappelle deux épisodes, celui-ci bien évidemment, et le précédent consacré à toutes les autres équipes, à la quêtes, du maillot vert, du maillot à pois et des victoires d'étape. On vous le recommande évidemment chaudement également. Alexis Damien, on va évidemment se voir dans peu de temps pour suivre ensemble ce Tour de France. Et je vous souhaite une courageuse attente jusque-là et puis évidemment un excellent Tour de France. Merci à vous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.
Ouais, ciao, ciao.
Salut, bon tour à tous. We'll be right back.